VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Au Tchad, l'offre d'amnistie du président Idriss Déby Itno est rejetée par plusieurs groupes armés. Mouhamadou Bouhari, le chef d'État nigérian, retourne une nouvelle fois à Londres pour des raisons de santé. En République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie d'Ebola a fait au moins 17 morts dans la province de l'Équateur. Dans notre partie magazine, nous ferons un gros plan sur l'augmentation des sans-abri à Los Angeles. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Le président américain Donald Trump a donc annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions contre Téhéran. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Dans une déclaration très attendue, le président Trump a qualifié l'accord signé en 2015 de désastreux. « J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien », a-t-il déclaré dans une allocution télévisée depuis la Maison-Blanche. Il a aussi annoncé une série de sanctions économiques contre Téhéran, promettant aussi de les étendre à tout pays qui essaierait d'aider l'Iran à acquérir l'arme nucléaire. Le président Trump a accusé le régime iranien de mentir sur son programme nucléaire, emboîtant le pas au premier ministre israélien qui a fait une déclaration dans ce sens il y a quelques jours. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu dit soutenir totalement la décision qu'il qualifie de courageuse du président Trump de se désengager de l'accord nucléaire avec l'Iran. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont tenté en vain de dissuader le président américain, proposant même d'améliorer le texte. Mais Téhéran a déjà indiqué qu'il n'accepterait pas une renégociation de l'accord.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington. L'actualité du continent à présent. Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé les membres de son gouvernement après la promulgation de la nouvelle constitution pour une quatrième république. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le nouveau gouvernement est composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 9 femmes. Ils vont tous prêter serment devant le président Idriss Déby Itno, comme le veut la nouvelle constitution. 10 anciennes personnalités ont quitté le navire, dont le ministre des Infrastructures, ceux des Finances et du Pétrole. Kassiré Koumakoy, ancien premier ministre, devient ministre d'État, conseiller à la présidence, et l'avocat Jean-Bernard Padaré, ministre d'État chargé des Infrastructures. Le portefeuille de la Défense et de la Sécurité et celui des Affaires étrangères n'ont pas changé. La Constitution, dont l'adoption a été boycottée par les députés de l'opposition, consacre désormais un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. Vendredi, le président Idriss Déby Itno a confirmé que les élections législatives, repoussées depuis 2015, vont se tenir en novembre 2018. Il a aussi décrété une amnistie générale, invitant tous les Tchadiens exilés à rentrer au pays. Mais Abakar Toulimi, ex-conseiller du président, les rebelles de l'Union des forces de la résistance et ceux de l'Union des forces pour la démocratie et le développement ont rejeté cet appel.
Au Togo, l'opposition prévoit de nouvelles marches contre le régime du président Fornia Simbé à Lomé et dans plusieurs villes du pays, malgré les changements d'itinéraire imposés par le gouvernement. Le point avec Irénée Herman Umpo.
Le gouvernement n'a pas interdit les manifestations, mais a imposé des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. C'est une violation de la loi selon Éric Dupuis, porte-parole de la coalition de l'opposition, qui assure que les marches auront bel et bien lieu. Payadoa Boukwessi, ministre de l'administration territoriale, a évoqué des plaintes déposées par des riverains. Ces dernières semaines, les lieux de rassemblement des opposants ont toujours été bouclés par les forces de l'ordre. Depuis septembre, des dizaines de milliers de Togolais sont descendus dans les rues pour demander l'application de la Constitution de 1992 qui implique une limitation à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les négociations engagées depuis le 19 février sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo ont été interrompues après 3 séances et sont depuis au point mort.
Au Cameroun, le général de brigade Melengui Nouma Donatien, au front dans une région franco-anglophone, a été remplacé par le colonel David Josta par décret présidentiel. Le président Biya souhaiterait plus d'efficacité sur le terrain, selon une source anonyme militaire. Le président Muhammadu Buhari a quitté le Nigeria pour la Grande-Bretagne pour une nouvelle consultation avec son médecin. Monsieur Buhari a déjà passé plus de 5 mois à Londres l'année dernière pour être soigné d'une maladie non communiquée au grand public. La plus grande opacité règne autour de la santé du président de 75 ans qui a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait être candidat de son parti pour la prochaine présidentielle de 2019. Nouvelle épidémie d'Ebola en RDC. Le ministère de la Santé congolais a indiqué que 21 cas de fièvre hémorragique avaient été signalés et que 17 personnes en étaient mortes dans la province de l'Équateur. Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola en RDC depuis 1976. Suite à la suspension de la VOA et de la BBC au Burundi, le correspondant de la VOA Kirundi Kinyarwanda, Jean Bosco Ndaru Renze, a été chassé hier d'un événement organisé à Kirundo par le CNDD. FDD, le parti au pouvoir, les services de sécurité ont confisqué son matériel avant de le lui restituer avec ordre d'effacer tout enregistrement. Le Conseil national de la communication du Burundi dit déplorer l'incident. Dans un communiqué, le président du CNC a fait savoir que son instance a suspendu la retransmission des radios BBC et VOA dans le pays, mais que les journalistes peuvent continuer à exercer leur métier s'ils informent le CNC en cas de problème. Crise à Madagascar, la commission électorale a proposé d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives prévues en toute fin d'année. L'opposition demande le départ du chef de l'État et de son équipe. Au Mozambique, le président Felipe Nyusi a rendu hommage à Alfonso Daclama, le leader de l'opposition décédé jeudi. La RENAMO s'est choisi un patron intérimaire, le général Osufo Momade, son ancien secrétaire général. Il devrait occuper ce poste jusqu'à un congrès qui élira officiellement un successeur. Près de 100 000 migrants venus principalement de la Corne de l'Afrique ont fui leur pays en 2017 pour se réfugier au Yémen, malgré la guerre et la crise humanitaire qui ravage ce pays. Le point avec Marie Benson.
7 000 migrants entrent au Yémen chaque mois, selon l'Organisation internationale pour les migrants. En 2017, le nombre de migrants a atteint 100 000. Pour la plupart, ils fuient les violences et la pauvreté et proviennent de l'Érythrée, la Somalie ou de l'Éthiopie. Ils espèrent atteindre des pays plus prospères du Golfe Persique. En 3 ans, 10 000 personnes ont été tuées dans la guerre au Yémen. Quelques chanceux trouvent un travail clandestin. Beaucoup sont confrontés à de mauvais traitements, aux abus sexuels et au travail forcé. L'organisation Human Rights Watch a déclaré que les employés du gouvernement yéménite ont torturé, violé et exécuté des migrants et demandeurs d'asile dans le centre de détention de Bouraïka, dans la province d'Aden, dans le sud du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit arriver dans l'heure en Corée du Nord pour préparer le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mike Pompeo, alors qu'il était encore directeur de la CIA, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en secret lors du week-end de Pâques. Aux États-Unis, Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, a averti que les enfants entrant illégalement aux États-Unis pourraient être séparés de leurs proches. Il réaffirme ainsi la politique de tolérance zéro pour l'immigration clandestine affichée par l'administration Trump. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le président chinois Xi Jinping a demandé à son homologue américain Donald Trump de prendre en compte les préoccupations de sécurité raisonnable de Pyongyang lors d'une conversation téléphonique de quelques heures après avoir rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-un. C'est ce qu'a rapporté un média officiel chinois. Selon l'AFP, Xi Jinping a dit au président Trump que la Chine et les États-Unis devraient s'efforcer de trouver une solution à leurs différends commerciaux. Au Liban, après le scrutin législatif de dimanche dernier, une coalition de la société civile va saisir la justice après l'échec d'une de ses candidates, déplorant des irrégularités électorales et un manque de transparence des autorités. Les législatives organisées dimanche au Liban, les premières depuis 2009, ont été dominées par les grands partis déjà au pouvoir, accusés de corruption et de népotisme. En Russie, le Premier ministre en exercice, Dmitri Medvedev, a été renommé à son poste par les 374 députés de la Douma, chambre basse du Parlement, une large majorité ayant voté pour lui lors d'un scrutin sans surprise. Seul le Parti communiste et le Parti nationaliste de gauche, Russie Juste, avaient dit ne pas soutenir la candidature de M. Medvedev. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré le nouveau président de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Maniarakiza.
La croissance pour 2018 ne devrait pas dépasser 4% en Afrique subsaharienne. D'après le FMI, les bonnes perspectives économiques mondiales, une hausse des prix des matières premières et un meilleur accès au marché international des capitaux favorisent cette légère reprise. Cependant, elle reste insuffisante pour atteindre des objectifs de développement soutenable. L'assainissement des finances publiques reste problématique et 40% des pays à faible revenu dans la région sont surendettés ou présentent un risque élevé de le devenir. Le ministre ivoirien des mines, Souleymane Diarra Souba, a appelé à des réformes vigoureuses dans les secteurs de mines et d'hydrocarbures pour évoluer vers une industrialisation dans la zone CDAO. L'Afrique de l'Ouest détient le tiers des réserves de pétrole et de gaz naturel du continent noir. M. Diarra Souba a déploré que la plupart de ces ressources soient généralement exploitées sous forme brute, sans transformation importante. La région dispose également dans son sous-sol de l'or, de l'uranium, de la bauxite, du diamant, du fer, du manganèse et des gisements de classe mondiale. Le légendaire Plaza Hotel de New York va être racheté pour 600 millions de dollars. La transaction doit être finalisée le 25 juin. Un des acheteurs est basé à Dubaï et prévoit d'en faire une marque mondiale. Le Plaza Hotel existe depuis plus de 100 ans et apparaît dans plus de 30 films hollywoodiens. Le Plaza a appartenu un temps au président des États-Unis Donald Trump. Il est actuellement géré par le groupe français Accor.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Quelques mots pour le départ du Tour cycliste du Bénin.
La 15e édition de ce Tour cycliste du Bénin qui s'était lancé de Tanguetta, au total 8 pays présents pour cette édition. Le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Bénin avec deux équipes. Première étape, je le disais, entre Tanguetta et Djougou, remportée par un Burkinabé, Yarbanga Salifou, qui devance Ilboudou Aruna et Bikenga Safo. Ce trio Burkinabé qui donc permet au Burkina Faso de remporter également le maillot jaune sur les épaules de Yarbanga Salifou. La prochaine étape, ce mercredi, entre Djougou et Parakou, longue de 125 km.
Report d'un match en Ligue africaine des champions.
La rencontre Mamelodi Sundowns-Oroya pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des champions a été reportée d'une semaine. Et ce, à la demande du club sud-africain et après accord du club guinéen. La raison, le match programmé entre les Sud-Africains et le FC Barcelone, un match amical. Conséquence, la rencontre entre les Mamelodi Sundowns et Oroya aura lieu le mardi 22 mai au stade du 28 septembre à Conakry. L'autre rencontre du groupe entre le WAC de Casablanca et l'AS Togo Port aura bien lieu le 15 mai au complexe Mohamed V à Casablanca.
Suite de la saga Griezmann.
Le président du club madrilène, Enrique Cerezo, a refusé d'alimenter les spéculations grandissantes autour d'un possible départ de l'attaquant français vers le FC Barcelone. À 27 ans, Griezmann a entretenu ces derniers mois l'hypothèse d'un départ de l'Atlético, son club depuis 2014. Le leader d'attaque de l'équipe de France fera connaître sa décision avant le début du Mondial 2018.
La Juventus en route pour un dernier titre cette saison.
La Juventus Turin, triple tenante de la Coupe d'Italie, est quasiment assurée d'un 7e Scudetto d'affilée et favorite contre le Milan AC. Ce sera demain soir à Rome.
Et bien sûr, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les LeBron James et les Cavaliers sont décidément indomptables. Cleveland a piétiné les Raptors de Toronto 128 à 93. Ils décrochent ainsi une quatrième victoire et une qualification pour la finale de la conférence Est. De son côté, Boston, qui avait remporté les trois premiers matchs, s'est incliné hier face aux Sixers, une défaite 92-103.
Merci Nicolas. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Tchad, au cours de la promulgation de la 4e République, le président Idriss Déby Itno a annoncé une amnistie générale à tous les Tchadiens en exil pour des raisons politiques. Cette décision vise, selon lui, à mettre tous les Tchadiens à contribution au développement de la paix et de la stabilité dans le pays. Aujourd'hui, dans l'opposition politique en exil, Achek Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères, est revenu sur cette mesure au micro de Raïssa Girondin.
Nous avions été, mes collègues et moi, pour certains, dont moi personnellement, condamnés à mort, d'autres à perpétuité, d'autres à temps. Beaucoup sont rentrés et ont bénéficié de la grâce après un séjour plus ou moins bref en prison. Et donc, sur le principe, ça n'est peut-être qu'une bonne chose. C'est pas parce qu'on est contre le régime qu'on est hors la loi. Maintenant, dans la pratique, on attend de voir, parce que le régime n'est pas à ses premières annonces très positives. On attend de voir le texte juridique qui doit être normalement une loi votée au Parlement ou une ordonnance et le contenu exact, parce que dans les déclarations des officiels et même du président, on parle aussi d'amnistier ceux qui ont commis des détournements de fonds et des choses de ce genre.
Donc vous pensez que cette amnistie pourrait donner une prime aux auteurs de détournements?
Il y a une déclaration dans ce genre que tous les délits passés seraient effacés. Il y a une déclaration, je crois, du président lui-même. Donc on attend de voir le texte. À ma connaissance, parmi les rebelles ou les exilés qui ont été condamnés par un procès d'ailleurs tout à fait irrégulier, personne n'a été accusé de détournement. C'était atteinte à la sûreté publique, atteinte aux institutions démocratiques, des choses de ce genre.
C'est une offre qui a été rejetée par plusieurs groupes armés. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que ces groupes armés n'ont pas confiance en fait en cette amnistie?
Oui, pour ceux qui sont encore à la tête de mouvements armés organisés, ils ont le droit de se méfier parce qu'il y a eu des accords de réconciliation et suivi d'amnistie par le passé. Certains se sont bien déroulés, d'autres se sont très mal terminés, coûtant la vie même aux concernés. Et il y a aussi une tendance du régime vis-à-vis de laquelle il faut se méfier, à savoir de refuser de discuter des problèmes de fond. Donc, quelque part, c'est un peu faire passer toute la lutte, toute la contestation comme relevant de l'activité criminelle sur laquelle il faut passer l'éponge, alors que sur tous ces mouvements et les jeunes qui ont pris des armes, ils ont des vraies revendications sociales et politiques et sécuritaires.
Suite à cette amnistie, êtes-vous prêt à rentrer au pays?
C'est un obstacle qui est levé, mais il y en a d'autres, c'est assez important. C'est un premier pas, comme disent les Chinois, sur un chemin de 1000 lits. Hein. On attend de voir, le contenu de la loi, mais sur le principe, c'est déjà, ne serait-ce que pour détendre un peu le climat politique qui était très tendu. Je pense que plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide, quoi.
Achek Ibn Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les États-Unis et le Mexique s'engagent à coopérer pour combattre le crime transfrontalier, notamment les gangs, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a discuté hier avec son homologue mexicain, Luis Videgaray, venu à Washington. De son côté, le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a réitéré que la frontière américaine n'était pas ouverte à ceux qui veulent entrer illégalement. Le point avec Idriss Fall.
Les États-Unis ont envoyé des centaines de membres de la garde nationale à la frontière américano-mexicaine pour lutter contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Cette action fait suite à l'arrivée d'une caravane de migrants à la frontière. Depuis la Californie, Jeff Sessions les a prévenus de ne pas essayer d'entrer illégalement aux États-Unis.
Nous sommes là pour adresser un message clair au monde entier que nous n'allons pas laisser notre pays être débordé. Nous n'allons pas laisser des gens en caravane spoliés vers notre frontière. Nous avons besoin de légalité et d'intégrité pour notre système d'immigration.
L'administration Trump est critiquée pour ce que certains perçoivent comme de l'insensibilité à la cause des migrants qui campent à la frontière. Le ministre de la Justice a même ajouté du personnel en renfort pour accélérer les demandes de ceux qui veulent venir aux États-Unis.
J'ai envoyé 35 procureurs et 18 juges d'immigration à la frontière sud-ouest.
L'immigration à la frontière sud a été au cœur des discussions lundi entre les chefs de la diplomatie américaine et mexicaine. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a annoncé que les deux pays vont coopérer pour combattre les trafics illégaux de drogue, d'armes et d'humains à travers la frontière. Il a affirmé que les États-Unis et le Mexique vont travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie dans les pays d'Amérique centrale que les migrants essaient de fuir.
Nous travaillons avec nos partenaires du Honduras, du Guatemala et du Salvador pour réduire l'insécurité et la violence, améliorer les opportunités économiques et combattre la corruption.
Son homologue mexicain a répondu que son pays n'est plus à l'origine d'une migration directe vers les États-Unis, mais que le Mexique aussi reçoit des migrants. Luis Videgaray, ministre mexicain des Affaires étrangères, avec son interprète.
Nous devons continuer à penser en priorité à la fondamentale dignité des immigrants, quelles que soient leurs conditions migratoires.
Les deux ministres ont annoncé qu'ils vont bientôt rencontrer à Washington les représentants du Guatemala, du Salvador, du Honduras et d'autres pays pour discuter d'immigration et de sécurité à la frontière.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le sculpteur Ousmane Sow avait atteint une immense notoriété lorsqu'en 2013, il a été élu à l'unanimité à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Une première pour un noir. Surnommé l'Auguste Rodin du Sénégal, l'artiste est mort à l'âge de 81 ans. À l'occasion de la Biennale de Dakar, la maison Ousmane Sow a ouvert ses portes au public le week-end dernier. Il s'agit de la maison où le sculpteur sénégalais habitait et travaillait et où, près de 2 ans après sa disparition, on peut voir son atelier et ses œuvres. Reportage de Mamadou Diop, récit de John Linden.
Des Nuba au Peul, en passant par les Maasai et les Zoulous, les sculptures du célèbre artiste sénégalais Ousmane Sow peuvent désormais être contemplées par le public dans sa maison du quartier de Yoff à Dakar. Sur l'initiative de sa veuve Béatrice et de ses enfants, les œuvres du grand homme reviennent à la maison.
Ousmane souhaitait que son œuvre reste à Dakar et soit installée à Dakar. Donc à son décès, ses enfants et moi-même avons trouvé que la maison, qui était quand même une maison entièrement recouverte de sa matière, avec les sols faits avec la matière de ses sculptures, était le lieu le plus adéquat. Et il y a une adéquation formidable entre les œuvres et la maison.
Dans cette maison que Ousmane avait baptisée le Sphinx, car construite à son idée comme une sculpture, l'artiste a vécu jusqu'à sa mort en décembre 2016. Aujourd'hui, entre ces murs, on peut sentir les vibrations de l'artiste à travers des œuvres inédites, mais aussi des œuvres inachevées. Écoutons les explications de sa fille, Ndeye Marina.
C'est pas un musée au sens conventionnel du terme, avec un guide, avec toute la lourdeur de ce que peut représenter une maison. Ici, voilà, on peut s'asseoir, on peut faire une pause, on peut lire, on peut. Voilà, il faut que les gens, le temps d'une visite, s'approprient les lieux.
Parmi les premiers visiteurs de la maison, on peut noter le ministre sénégalais de la Culture. Pour Abdou Latif Koulibaly, les lieux reflètent l'homme tel qu'il était.
À la sortie, j'ai vite eu l'impression que cette maison dépositaire d'une générosité sans limite. La générosité de l'artiste, par la splendeur de sa création, des œuvres monumentales qui ont fait que cet artiste est devenu un artiste mondial. c'est un Sénégalais, il nous appartient à nous. Mais nous avons très vite compris qu'on le partageait avec les autres.
L'ouverture de cette maison d'Ousmane Sow est un moyen pour sa famille d'assurer sa pérennité, mais aussi de réaliser son rêve qui était d'ouvrir un musée au Sénégal rassemblant toutes ses œuvres.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à Vasco Volaric, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Rien n'est plus important pour l'avenir de l'Afrique subsaharienne qu'une source d'énergie abordable et fiable, sans laquelle aucune entreprise ne peut réussir. L'énergie électrique est un ingrédient crucial de notre réponse à l'un des plus importants défis de développement de notre temps, le déplacement des familles et des communautés à travers le monde, a déclaré l'administrateur de l'USAID, Mark Green, au 4e sommet annuel Powering Africa. La connectivité permet aux déplacés de rester en contact avec leurs familles et amis, de remettre de l'ordre dans leur vie avant de chercher à s'installer dans un nouvel endroit. Toutefois, en Afrique subsaharienne, des millions de déplacés vivent pour une durée indéterminée dans des camps sans électricité. Et c'est ici que Power Africa intervient. En janvier, l'USAID a annoncé un nouveau partenariat entre Power Africa et Mastercard qui vise à connecter des millions de déplacés d'Afrique au réseau électrique et leur permettre d'accéder aux outils digitaux et à l'Internet. À travers Power Africa, nous avons aidé à mobiliser plus de 20 partenaires allant de Mastercard à Mercy Corp, en passant par Energy Peace Partners. Ensemble, nous œuvrons pour électrifier et connecter 5 camps des réfugiés, 3 en Ouganda et 2 au Kenya, a expliqué l'administrateur Green de l'USAID. Power Africa est réellement un partenariat réussi entre le gouvernement et le secteur privé. Power Africa marche, a dit l'administrateur Green. L'initiative a aidé 58 millions de personnes à accéder à l'électricité grâce au mécanisme du marché et de l'entrepreneuriat. Elle a impliqué plus de 140 partenaires du secteur privé et mis à contribution les autorités de régulation pour faciliter des transactions, se chiffrant à 14,5 milliards de dollars. Côté gouvernemental, l'USAID fournit l'assistance technique et des garanties de prêts pour faciliter les investissements. Le Millennium Challenge Corporation prête main forte aux réformes du secteur énergétique. Le département d'État œuvre, de son côté, au renforcement de la gouvernance dans le domaine de l'énergie, tandis que l'Agence pour les investissements privés à l'étranger finance les infrastructures énergétiques à travers le continent. Et cela devrait être le ton de l'Afrique, a déclaré l'administrateur Green de l'USAID. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme, ses ressources, ses terres agricoles et ses pâturages, mais surtout l'impressionnant esprit de résilience et de joie qui habite un si grand nombre des habitants. Comme l'a dit le président Trump l'automne dernier en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, en ce qui concerne l'Afrique, les perspectives sont brillantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.